Aujourd'hui, nous avons quelques saints, mais pas tellement nombreux. Nous avons en particulier quatre saintes assez extraordinaires qui sont mortes en compagnie d'un prêtre qui s'appelait le Père Payen. C'est assez curieux. Et elles ont été béatifiées, elles sont mortes en 1794 dans la grande tourmente de la Révolution française, la veille de l'arrêt des grandes persécutions. Nous avons quelques autres saints, dont un jeune garçon de 9 ans, assez rare, et qui s'appelait Pélage, et qui a vécu à Cordoue, en Espagne. Et enfin, il y a plusieurs autres saints très peu connus, dont, assez étonnant, un chartreux qui a été nommé évêque, et évidemment que ça ne lui plaisait guère. Il s'appelait Anthelme. Il est mort en 1178. Il a été nommé évêque de Belley, où je suis déjà allé rencontrer l'évêque de Belley afin de l'interviewer sur le curé d'Ars qu'il avait étudié profondément. Il avait écrit des ouvrages sur ce saint extraordinaire qui est le patron des prêtres séculiers, en dépit du fait que le curé d'Ars ait eu beaucoup de difficultés à faire ses études, ayant peu de talent à l'étude, peu de préparation, semble-t-il, pour devenir vraiment un prêtre, et qui n'avait guère été ordonné, comme vous savez, que par justesse, c'était de justesse. Mais vraiment, il est devenu, en dépit de l'absence apparente de talent, un des prêtres les plus extraordinaires de toute l'histoire de l'Église, pour être nommé d'ailleurs le patron des prêtres séculiers, du monde entier. Alors, nous allons vous parler des bienheureuses Madeleine Fontaine, on dirait une Québécoise, Françoise Laniel, un nom tout à fait québécois, Thérèse Fantoux et Jeanne Gérard, un autre nom qu'on pourrait voir au Québec. Donc, les Madeleines, les Françoises, les Thérèse et les Jeanne sont célébrées aujourd'hui par ces sœurs magnifiques. Ce sont des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez, ces sœurs qui portaient des cornettes magnifiques, on dirait de grands oiseaux blancs. Hein? Les gens plus âgés comme moi ont pu voir ça. Moi, je me souviens d'être allé chez les sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, rue du Bac, à Paris, où elles avaient leur maison mère. Ce sont des sœurs fondées par Saint-Vincent-de-Paul lui-même, qui pratiquent la charité et qui étaient renommées par toute la France. Elles étaient si nombreuses, d'ailleurs, qu'au début du siècle, alors que le petit père Combes, comme on disait, cet homme politique extrêmement anticlérical et anticatholique, avait chassé toutes les communautés religieuses de France, il avait chassé les religieuses, les moines, les monastères, vidé les monastères, eh bien, les sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, ils n'avaient pas cru bon de les chasser, parce que cela aurait fait vraiment susciter une rage chez la plupart des Français, y compris des anticléricaux, y compris des athées, car les sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul ont toujours été réputées pour leur amour des plus pauvres, leur esprit de service, leur sens chrétien extrêmement profond. Donc, elles ont été fondées par Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Louise de Marillac. Ces deux saints avaient fondé à Arras. Arras, dans le nord de la France, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est, disons, pas tellement loin de Dunkerque. Nous connaissons le débarquement, n'est-ce pas, Dunkerque, au cours de la dernière guerre. Disons que c'est près de la Belgique, en fait. Donc, ils avaient fondé à Arras, en 1656, une maison des Filles de la Charité, qui, en 1779, a été transférée au centre de la ville. Et en 1789, c'est au moment de la Révolution française, il y avait là 7 religieuses, et ça suffisait souvent 7 religieuses pour faire un bien immense, car ça suscitait aussi chez beaucoup de laïcs, des femmes et même des hommes, le désir de les accompagner dans leurs travaux et de faire avec elles autant de bien qu'on pouvait auprès des plus pauvres. Alors, ces 7 religieuses enseignaient gratuitement les petites filles. Elles tenaient un dispensaire, voyez-vous, pour soigner, une espèce de CLSC, si vous voulez. Et elles visitaient les pauvres à domicile en plus, toujours avec leurs immenses cornettes et leurs beaux costumes bleus. C'était quelque chose d'assez extraordinaire que de les voir dans les rues. Il y en a eu à Montréal pendant un certain temps. Je me souviens bien, d'ailleurs, qu'elles étaient un peu embarrassées, parce que quand elles montaient dans le tramway Outremont, elles devaient s'asseoir sur des sièges, et une grande partie de leurs cornettes se trouvait dans l'allée. Alors, de la main gauche, là, elle relevait cette cornette pour la mettre droit à la verticale et pour permettre aux gens de passer. Et l'autre cornette était appuyée contre la vitre et montait aussi vers le haut. C'était un costume invraisemblable, mais de toute beauté. C'était un costume, au fond, de paysanne qu'elles avaient gardé. Et donc, elles visitaient donc à Arras les pauvres à domicile. Et les quatre plus anciennes ont reçu la couronne, comme on dit, du martyr. La supérieure était cette sœur Madeleine Fontaine. Elle était née en 1723. Elle avait été baptisée le jour même, dans une famille donc extrêmement chrétienne, où on baptisait le jour même, n'est-ce pas, les enfants? Ou le lendemain, moi j'ai été baptisée le lendemain de ma naissance. Et elle était l'aînée de 14 enfants. Elle a aidé ses parents, élevé ses frères et sœurs, dont deux seulement sont arrivés à l'âge mûr. Les enfants mouraient très facilement à cette époque. C'était extrêmement dur pour les parents. On n'avait pas les simples petites méthodes d'aujourd'hui que sont les aspirines. Simple aspirine, je ne veux pas faire de la publicité pour les aspirines, mais c'est pour vous dire que ce simple petit médicament et quelques autres comme ça nous permettent de sauver nos enfants de quantité de rhumes, de grippe et de finalement de pneumonie. Et à 25 ans, elle a été admise à commencer son postulat chez les Sœurs de la Charité, dans un village voisin de son pays natal, à Hébécourt, où il y avait déjà deux filles de la Charité qui s'occupaient du soin des malades. Et alors, en 1748, elle est entrée au noviciat de Paris. Ah là, c'était la grande maison, hein. C'était connu sous le nom de séminaire. Elle y est passée un an. Puis ensuite, elle a été envoyée dans le sud, à Rebais-en-Brie, où elle est restée 19 ans, sous le nom simple de Sœur Gabrielle, hein, à faire la classe aux petites filles pauvres. Et en 1768, elle a été envoyée là dans le nord, à Arras, en qualité de supérieure. Ces femmes portaient simplement leurs prénoms, hein, Sœur Gabrielle, Sœur Rosalie. Je dis Sœur Rosalie parce qu'il y avait au siècle dernier à Paris une sœur du nom de Sœur Rosalie, tellement populaire auprès de la population entière, que quand elle est morte, croyez-moi, croyez-moi pas, moi j'ai sa vie chez moi, j'ai lu ça avidement, c'est tellement passionnant. Une femme fantastique. Et quand elle est morte, eh bien, il y avait plus de monde à ses funérailles que la semaine précédente pour les funérailles du président de la République française. C'est pas peu dire, hein. Pour une petite sœur qui s'occupait des pauvres, plus de monde à ses funérailles que la semaine précédente pour le président de la République française. Et alors, sœur, il y avait aussi sœur Françoise. Sœur Françoise était née le 24 août 1745. Elle avait été baptisée le lendemain. Elle, voyez-vous, hop, baptisée le lendemain seulement. Et elle était l'aînée, elle aussi. Elle n'avait que 8 ans quand sa mère est morte. Son père se remaria à s'établir non loin de l'école des filles de la charité. Et là, Françoise les a fréquentées. Elle a été instruite par elle et a pris goût. Probablement un peu de... quand elle était enfant, de porter ce beau costume, hein, ça naissait comme ça, les vocations, souvent, hein. Chez l'enfant jeune, qui avait 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, un jour, je porterai ce beau costume, un jour, je ferai comme les sœurs, un jour, je souhaiterai devenir une sainte. On dira, mais qu'est-ce que le costume a à voir là-dedans? Bah, voyons donc, est-ce que nos enfants veulent pas devenir des pompiers, des policiers, pour pouvoir porter le costume quand ils ont 5, 6, 7 ans? Oh, que j'ai vu mon petit-fils à 5 ans, le plaisir qu'il avait quand on l'amenait dans une station de pompiers, de monter à bord du camion de pompiers, de voir les pompiers avec leurs costumes autour de lui, il rêvait d'être pompier. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, les sœurs ne portent plus de costumes, mais c'est plus difficile pour elles de susciter des vocations, hein, de faire grandir ce désir. Et alors, elle a décidé d'entrer chez les filles de la charité en 1764, et puis la même année, elle a commencé son noviciat, puis elle est entrée dans un séminaire semblable à celui de Paris, un séminaire des Sœurs de la Charité, et puis elle est envoyée à différents endroits, puis finalement, ben, elle aboutit à Arras, hein, et sœur Thérèse Fantoux, la troisième, qui a été assassinée par les révolutionnaires en 1794, mais c'est un peu la même vie, n'est-ce pas? Elle a été baptisée même le jour même, elle a encore une autre baptisée le jour même. Elle était la plus jeune de sa famille. Et puis, comme il y avait des sœurs de la charité qui s'occupaient de la visite des pauvres dans le village où elle est née, bien, elle a voulu les imiter. Elle a été admise, elle aussi, à Paris, n'est-ce pas, dans le séminaire des Sœurs de la Charité de Paris. Puis finalement, elle a été envoyée à Arras. Quant à la quatrième, Sœur Jeanne Gérard, elle était née en 1752. Et durant son enfance, son père l'amenait souvent à Verdun, à 13 kilomètres de là. Et c'est là qu'elle a rencontré les bénédictines de Saint-Maur. C'était une très grande communauté à l'époque, les bénédictins, les bénédictines de la congrégation de Saint-Maur. Aujourd'hui, on parle des bénédictins en France de la congrégation de Solesmes, hein, qui sont très réputés. C'est une partie de ces moines-là qui sont à Saint-Benoît-du-Lac, ici, près de Magog, hein, dans ce monastère fantastique au sommet d'une montagne, au-dessus du lac Memphrey-Magog. Hein. Ceux qui ne sont pas allés à Saint-Benoît-du-Lac doivent profiter cet été de faire une visite, d'assister aux offices, assister à la messe à 11h le matin, c'est magnifique, hein, et de rencontrer des bénédictins héritiers finalement de la congrégation de Saint-Maur, eux qui sont de la congrégation de Solesmes. Et puis là, près des bénédictines de Saint-Maur, il y avait aussi les filles de la charité. Et entre les deux, bien, elle a choisi les filles de la charité. Hein, pour couper court, en fait, à des projets de mariage que son père avait pour elle. Et alors, en 1676, elle est entrée à Paris. Et puis là, elle est envoyée à Arras. Elle est restée là jusqu'à sa mort. Alors, il y avait donc des sœurs plus jeunes, etc. Puis le début de la Révolution n'a pas arrêté, en 1789, ce désir brûlant des religieuses dans leurs œuvres de charité. En 1790, lors de l'inventaire des biens de la congrégation, ben, la municipalité, là, s'est contentée de rédiger cette petite note. Je vous la lis parce qu'elle est très intéressante. Il existe à Arras, ce sont des révolutionnaires, là, qui écrivent ça, hein, des gens qu'on juge comme étant très méchants. Mais vous savez que parmi les révolutionnaires, il y avait des gens qui étaient pris dans le système, un peu comme il y a eu des officiers nazis, oui, je le dis, des officiers nazis, qui avaient du cœur. Ça avait pu scandaliser des gens, mais je ne veux pas scandaliser personne. Ils étaient pris dans le système. Quand un système comme ça s'établit, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. C'est très, très, très embêtant. Si on s'oppose, on est mort. Alors on se dit peut-être c'est mieux de rester dans le système pour essayer d'exercer un peu de bien. Et là, voilà le texte. Il existe à Arras une maison habitée par cette religieuse connue sous le nom de Sœur de la Charité. Quoique ce ne soit pas un hôpital, tous les revenus de cette maison étant employés au soulagement des pauvres malades, le corps municipal a cru devoir la ranger dans la classe des hôpitaux. Alors ils épargnent donc. Et en 1792, une autre note parle avec éloge de cette congrégation utile, connue dans toute la France pour les services qu'elle rend à l'humanité. Je tiens à signaler ça. Pour toutes les sœurs hospitalières et les sœurs de charité, que ce soit les sœurs grises, les sœurs de la Providence, où je suis allé samedi après-midi pour assister à cette belle messe du patriarche Maximos, ces sœurs fantastiques qui ont tant fait de bien, on peut leur reprocher qu'elles ont manqué de jugement ici et là, qu'elles ont fait ceci qui n'était pas correct, etc. Qui n'a pas ses erreurs? Qui ne fait pas d'erreur? Je suis fatigué parfois de ce manque de reconnaissance à l'égard de la charité sans fin, d'une charité extraordinaire d'une grande partie de ces femmes. Et les révolutionnaires, au temps de cette grande révolution française, ont su reconnaître ça. Et le 3 octobre et 29 décembre 1793, voyez-vous, on approche de 1794, c'est la révolution, la convention. Je vous expliquerai un jour ce que c'est que la convention. C'est le gouvernement, si vous voulez, jusqu'à un certain point. Le gouvernement révolutionnaire, étendit aux religieuses l'obligation là de prêter le serment de liberté et égalité. C'était contraire, sous certains aspects, à la fidélité au pape. Il faudra expliquer ça, c'est très compliqué. En tout cas, était-il permis en conscience de s'y soumettre? C'était ça le problème. Et les contemporains hésitèrent et se décidèrent les uns. Pour la négative, ils refusaient de signer. Et d'autres, que je connais pour être honnête, ont signé pour l'affirmative. Nous aborderons cette grave question peut-être pour les martyrs de septembre. Au début de septembre, il sera question de ça, où un Montréalais, André Grasset, a été tué comme ça au couvent des Carmes, qui est devenu l'Institut catholique à Paris, a été assassiné dans ces grands carnages. Hein, un Montréalais, oui. André Grasset. Alors, s'il ne s'était agi que de promettre, disons, d'être loyal au gouvernement établi, ben, ce gouvernement leur était permis. Mais au fond, c'était un moyen de faire reconnaître les pires lois. Les pires lois de la Révolution qui étaient des lois de persécution. Et c'est à cette seconde opinion que s'est arrêté l'évêque d'Arras, qui venait de Belgique. Et son clergé l'a suivi fidèlement, puis les sœurs aussi, hein, les sœurs crurent de leur devoir de prendre la même attitude, puis elles refusèrent de prêter le serment. Mais cependant, pour éviter des provocations inutiles, elles ont quitté leur habit religieux. Et voici qu'on retrouve nos sœurs, et le 1er novembre 1793, Joseph le Bon, c'était un prêtre apostat, un prêtre qui avait rejeté non seulement son sacerdoce, mais sa foi. Il a fait son entrée à Arras. Je vous rappelle qu'Arras est dans le Pas-de-Calais, près de la Belgique. Il était représentant du peuple. Puis là, il a commencé une ère de terreur. Et le 14 novembre, deux semaines plus tard, donc, deux commissaires sont venus au couvent pour demander aux sœurs si elles avaient prêté le serment ou si elles voulaient s'y soumettre. Alors, comme elles ont refusé, ils se sont mis à fouiller dans le couvent pour essayer de trouver des preuves qu'elles étaient des révolutionnaires, enfin, à leurs yeux. Et puis, ils sont revenus un dernier, le surlendemain même. Ils ont dressé un second inventaire, puis finalement, une semaine plus tard, le 23 novembre, les autorités ont rendu un arrêté, une décision qui chassait de tous les hôpitaux les religieuses qui avaient refusé le serment. Là, ils ont converti l'hôtel Dieu en prison. Un hôtel Dieu est devenu une prison. La maison de charité, elle, devait désormais s'appeler maison de l'humanité, et non pas de charité. Sa maison aurait un directeur, un médecin, un chirurgien, un apothicaire et une lingère, et quant aux sœurs, bien si la nouvelle organisation les privait de leur indépendance, elles étaient autorisées, arrestées si elles voulaient, malgré leur refus de serment, hein. Car on les gardait pourquoi? Ben, c'est pas par sympathie ou tolérance, mais parce qu'elles avaient la réputation de savoir guérir les maladies, puis on voulait pas priver la ville de leurs services, parce qu'on savait pas comment les remplacer. Et alors, il y a eu la confiscation des biens des religieux. On confisquait tout. C'était un carnage épouvantable. Moi, j'ai dans ma bibliothèque des collections magnifiques de livres qui viennent de monastères. Mettons une grande collection, disons, de 23 volumes des Pères de l'Église, reliés en cuir. C'est magnifique, mais c'était arraché, ça, des monastères qui sont disparus, qui ont été détruits. J'ai des collections magnifiques comme ça. On pouvait acheter ça en France il y a quelques années pour presque rien, parce que c'était religieux, ça n'intéressait personne. C'est triste. Quelle horreur. Et alors, faut noter cependant qu'il y avait quelques administrateurs qui étaient sympathiques, hein, qui leur ont versé jusqu'au bout leur rente. Et de plus, bien, ces jeunes demoiselles, comme on disait, faisaient des quêtes dans les paroisses. On a changé le nom de jeunes demoiselles en jeunes citoyennes. Appeler ces religieuses-là. Les jeunes citoyennes font la quête dans les sections. On peut lire ça dans les rapports. Alors, elles ramassaient un peu d'argent, assez pour que les sœurs puissent continuer leur œuvre, soigner les malades. Mais à cause de leur refus de serment, ben, elles n'ont reçu aucune allocation officielle. Hein. Mais leur popularité ne diminuait pas. Hein. Puis des hommes qui se trouvaient mêlés aux révolutionnaires se servaient de ce qu'ils apprenaient ainsi pour les aider. Et c'est ainsi qu'au début de 1794, là, elles ont été averties que cette espèce de club de révolutionnaires, là, préparait contre elles de nouvelles persécutions. Puis là, la supérieure a pris la décision, par pitié pour les plus jeunes, de les mettre en sûreté. Alors, elle les a déguisées en paysannes, puis elle les a envoyées outre-frontière en Belgique. Et le 5 février 1794, l'officier municipal qui était venu occuper le poste de directeur de la Maison de l'Humanité, a montré sa mauvaise volonté immédiatement, et les sœurs se sont rendues compte de l'horreur dans laquelle elles étaient plongées. Le 14 février, là, quelques jours plus tard, quoi, elles purent arrêter. Elles ont été conduites dans une abbatiale. Qu'est-ce que c'est une abbatiale? C'est une grande église d'une abbaye, hein, qui était transformée en prison. On entassait là les suspects. Ça s'appelait l'abbatiale de Saint-Vast. Et puis, le 10 mars, un mois plus tard, elles furent transférées à la prison, écoutez le nom, La prison de la Providence. C'est incroyable, c'était un couvent de la Providence, c'était transformé en prison, quoi. Ancien couvent, justement, transformé en prison pour femmes depuis l'expulsion des religieuses, quand on ne les tuait pas. Et le 4 avril, finalement, peu de jours plus tard, les sœurs ont été amenées devant deux membres du comité de surveillance pour subir leur premier interrogatoire. Alors, la fille du directeur de la Maison de l'Humanité avait déclaré qu'elle avait découvert 4 paquets de journaux, de brochures et autres papiers qui étaient contre-révolutionnaires. Et les sœurs ont subi donc un interrogatoire et 7 semaines après leur emprisonnement. Là, elles ont tout nié. Tout nié ce qu'on leur reprochait. Mais la calomnie était évidente, hein. La prétendue découverte de ces papiers avait été faite sans témoin. Après des inventaires très complets pendant lesquels on n'avait rien omis, mais là, le tribunal a déclaré qu'il y avait une violente présomption, disait-on, et qu'en conséquence, les religieuses seraient conduites à la maison d'arrêt du tribunal révolutionnaire du département. La prison des Baudets. Vous savez ce que c'est des Baudets, hein? Des ânes. C'est terrible. Et là, les sœurs y furent incarcérées, puis le lendemain 5 avril 1794, mais le régime des prisons révolutionnaires était partout très dur. Et souvent, cependant, il était possible d'obtenir quelques adoucissements en achetant les gardiens. Mais encore, fallait-il avoir de l'argent, hein? Mais là, les sœurs en avaient pas. Et dans ces prisons, il se passait des choses épouvantables. Les détenus étaient souvent choisis dans l'élite, puis aussi dans la canaille. Puis durant de longues journées de détention, mais les prisonniers pouvaient se connaître, se parler. Elles ont aidé beaucoup de gens. Et nous verrons tout à l'heure tout ce qu'elles ont dû souffrir en prison et comment, finalement, ces 4 religieuses admirables sont décédées avec un courage et une foi qui les met au rang des grandes religieuses et des grands martyrs des temps modernes. Et pour revenir enfin à nos religieuses, nos sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, eh bien, le 5 mai, on approche, là, elles sont mortes au mois de juin, c'est pas un 26 juin, donc le 5 mai 1794, un dénommé Joseph Lebon. Quel nom de famille pour un homme aussi mauvais. Joseph Lebon se rend à Cambrai, qui est une ville pas tellement loin d'Arras. Hein? Alors là, il instaure le régime révolutionnaire qu'il avait fait fonctionner à Arras. Et puis, il ne perdait pas ses pouvoirs sur la ville d'Arras. Alors là, il fait venir les sœurs. Le dimanche 25 juin, on est la veille de la mort. Hein? Le dimanche 25 juin, elles sont mortes un lundi, comme vous voyez. Aujourd'hui, lundi 26 juin, c'est exactement l'anniversaire. Donc, ce dimanche, le convoi habituel était parti le matin. La règle était de n'en former qu'un seul par jour, un seul convoi. Et puis, dans le convoi, il y a des gens assez étranges. Une lettre de l'accusateur public de Cambrai portait en suscription, voici le texte, très précis, par ordonnance. Et puis c'était apporté dans la journée. Alors elle demandait d'envoyer au plus vite les 4 filles de la charité et de les faire voyager la nuit pour qu'elles puissent arriver à Cambrai le lendemain matin. Membre du directoire du district d'Arras eurent l'idée de leur adjoindre un autre détenu. Écoutez bien ça, l'autre détenu, c'était Jean Payen. Quel étrange nom pour un éminent catholique, Jean Payen, auquel ce fameux Lebon avait voué une haine féroce parce qu'il avait refusé d'assister aux offices qu'il avait célébrés quand il était curé constitutionnel de Neuville. C'est-à-dire que ce Lebon avait été un prêtre, apostat, et que le Jean Payen, lui, était un homme fidèle qui ne voulait pas assister. En passant pour prendre le prisonnier, les sœurs ont pu voir une dernière fois une de leurs bienfaitrices, une dame Cartier, qui était détenue à la prison de la Providence. Et là, la sœur Fontaine savait bien qu'elle n'aurait besoin de rien à Cambrai, il lui restait 7 francs. Alors elle a confié cette petite somme à Madame Cartier en la chargeant de la remettre aux filles de la charité qui viendraient restaurer, sans doute un jour, la maison d'Arras. Et la voiture, donc, allait grand train. Puis à un relais, là, elle a rattrapé le convoi régulier qui était parti le matin. Alors pendant que les conducteurs puis les gendarmes buvaient à l'auberge, ben là, les sœurs, elles ont pu s'approcher des autres prisonniers. Puis il y avait là plusieurs femmes Et tout naturellement, elles étaient très abattues, elles savaient qu'elles s'en allaient vers la mort. On savait que le passage devant le tribunal révolutionnaire, là, à Cambrai, c'était pas qu'une formalité, hein. Et que l'issue n'était pas douteuse, au fond, la sanction serait prononcée à mort, hein. Puis alors, là, les religieuses ont cherché à les réconforter. Et Sœur Fontaine a annoncé tranquillement, comme dans une vision, avec une sûreté qui a étonné tout le monde, mais ça, ils n'ont pas osé se laisser convaincre. Parce que on a pensé qu'elle déraillait un peu. Elle a dit, mesdames, Dieu aura pitié de vous, ne vous désolez pas. Vous aurez la vie sauve. Nous allons vous précéder au tribunal et nous serons les dernières victimes. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Un prisonnier a réussi à défaire le chapeau d'une roue qui est tombée. Alors on a amené le convoi à Arras et quand, 3 jours plus tard, on est reparti pour Cambrai, bien le tribunal fonctionnait plus, puis ces femmes-là n'ont pas été tuées. Alors, les sœurs, elles sont arrivées à Cambrai au matin du lundi, le lendemain, parce que les roues fonctionnaient très bien, et puis elles devaient mourir le jour même. Elles furent conduites à la prison de la Force, située près de l'hôtel de ville à Cambrai. Mais le directeur les refusa parce qu'elles n'avaient pas été annoncées et qu'elles n'avaient pas de place. Il n'y avait pas de place. Alors l'accusateur public, qui se trouvait là, les envoya à la prison du séminaire. Imaginez, la prison du séminaire encore, où se tenait le tribunal révolutionnaire. C'était un jour de marché. Là, des habitants remarquèrent les saintes filles, qu'ils savaient être des femmes extraordinaires, parce qu'ils en avaient connu deux, hein, et qui priaient continuellement et ne cessaient de répéter que leur exécution serait la dernière. Ah, puis là, ils leur ont témoigné de la sympathie. Puis là, les gendarmes on a amené dans la salle du tribunal les 4 filles de la charité et le fameux Jean Païen. Celui-ci passa le premier et fut rapidement condamné. Puis le président s'adressa à Sœur Fontaine au sujet des papiers contre-révolutionnaires que l'on prétendait avoir découverts dans leur maison. Et comme il était impossible de rien tirer d'une semblable accusation, il est allé clairement au point précis qui leur était reproché. Il a demandé aux sœurs si elles étaient décidées à prêter serment, là, elles ont refusé absolument. Alors un juré a déclaré, mais s'il le fallait pour le salut de la République, alors les sœurs ont répondu ensemble, notre conscience nous défend de le faire. Et là, le tribunal en savait assez. Là, la sœur Madeleine Fontaine a été condamnée à mort comme, c'est assez curieux, pieuse contre-révolutionnaire, c'est dans le texte. Ayant conservé précieusement et même caché sous un tas de paille une foule de brochures et de journaux, renfermant le royalisme le plus effréné, ayant refusé le serment, ayant même insulté aux commissaires du district en leur disant que cela n'irait pas et qu'il n'y avait plus de diable en enfer, qu'ils étaient sur la terre. Je trouve ça bien sympathique, elle leur a dit qu'il n'y avait plus de diable en enfer, ils étaient tous sur la terre. C'était une façon de les insulter, qui je trouve bien sympathique. Et alors là, les sœurs Jeanne Gérard, Françoise Lanel et Thérèse Fantoux ont été condamnées à leur tour comme complices de la dite Madeleine Fontaine. Alors là, on a tout fait pour discréditer ces pauvres sœurs, en faisant peser sur elles toutes sortes d'accusations politiques. Puis la sentence, elle, d'ailleurs, indique clairement le véritable motif de leur condamnation quand on dit « pieuse contre-révolutionnaire ». Hein? C'est clair. C'est au fond à cause de leur piété et de leur foi. La haine qu'ont ces gens contre ceux qui croient. On a vu ça dans ce siècle. Derrière le rideau de fer, ce fut horrible. Combien de croyants derrière le rideau de fer? Combien de nos frères orthodoxes russes? De nos frères orthodoxes des différentes églises autocéphales, orthodoxes, n'est-ce pas, ont été tués. J'ai déjà rencontré un évêque orthodoxe à Bruxelles, orthodoxe russe. Il avait eu l'audace, puisqu'on discutait, puis je m'apitoyais sur son sort. Il était très âgé, il est mort quelque temps après. Il avait baissé sa soutane pour me montrer son dos, qui avait été ravagé par des coups de fouet, par des brûlures faites avec des cigarettes ou des cigares. C'était terrible, ce pauvre homme qui était un si bon évêque, évêque orthodoxe russe de Bruxelles, dont je garde un souvenir pour jusqu'à la fin de mes jours. un martyr du XXe siècle. Mais il y en a eu des millions. Il y a eu plus de martyrs dans l'Église orthodoxe durant ce siècle que dans tous les siècles précédents. Il en va de même pour nous, catholiques. Nous sommes les frères presque siamois, n'est-ce pas, des orthodoxes, qui sont nos frères les plus chers. Et alors, donc, c'est à cause de leur foi qu'elles ont été condamnées. Les assistants n'ont pas osé avoir trop de courage. Ils n'ont pas manifesté. Et ils n'ont rien fait. Mais en préparant la mort des condamnés, les bourreaux ont eu une surprise. Les sœurs avaient toujours été parfaitement dociles et résignées, mais quand on a voulu leur enlever leur chapelet pour leur lier les mains derrière le dos, elles n'ont jamais voulu lâcher leur chapelet. Et là, il y a quelqu'un qui leur a proposé de leur mettre des chapelets sur la tête comme des couronnes, un peu pour se moquer d'elles. Et c'est ainsi qu'elles ont été conduites au supplice. Et le peuple les regarda passer, silencieux mais sympathiques. Peut-être quelques personnes ont-elles reconnu les sœurs Lanelle et Fantoux, parce que ces deux sœurs-là avaient travaillé à Cambrai, même si elles venaient d'Arras, là. À Cambrai, c'est tout près de la frontière belge. Et les sœurs n'étaient pas tristes, au contraire, elles chantaient l'Ave Maria Stella. Qu'est-ce que c'est que l'Ave Maria Stella? On chante plus ça, hein? C'est un chant qui s'est chanté depuis toujours dans l'Église. C'était composé par Venance Fortuna qui est mort en l'an 600. Et je me souviens quand on chantait ça, Ave Maria Stella. C'est le chant même patriotique, c'est le chant de nos frères acadiens au Nouveau-Brunswick. Nous, on chante, on n'a plus que le chant ici au Québec, si ce n'est que le Haut-Canada qui est le chant du Canada. Mais les Acadiens, eux, ont leur chant, l'Ave Maria Stella. Ça se lit comme ça en français. Je vous salue, étoile de la mer, auguste mère de Dieu, toujours demeurée vierge, douce porte du ciel, hein? Douce porte du ciel. Pour ces femmes qui allaient entrer au ciel, c'était un chant idéal. Elles récitaient leur chapelet et ainsi que des litanies de la Sainte Vierge. C'est tellement beau, les litanies de la Sainte Vierge. C'est presque surréaliste. On donne à la Vierge des noms les plus abracadabrants aux oreilles sans doute des plus jeunes. Mais quand on a une formation religieuse acquise dans la tradition d'autrefois, on en connaît le sens et les symboles, et c'est très beau, c'est très poétique, c'est grandiose. Alors que tout ça est perdu aujourd'hui, le sens, les signes, des symboles et des mots est perdu. Hein? Si je vous récitais les litanies de la Sainte Vierge, je sais que bien des gens qui ne connaissent rien à tout ça se demanderaient si je ne déparle pas, si je ne dis pas des choses qui n'ont pas de sens. Et en arrivant au pied de la guillotine, bien les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul, ces sœurs qui me sont très chères, se mirent à genoux en attendant leur tour. Et Jean Païen est mort le premier, comme un saint, en dépit de son nom de famille. Puis les trois sœurs, puis enfin la supérieure, sœur Madeleine Fontaine. Avant de se présenter au bourreau, cette dernière, la supérieure, s'est retournée vers le peuple et a crié avec force, écoutez ça, c'est beau, « Chrétiens, écoutez-moi, nous sommes les dernières victimes. Demain, la persécution aura cessé. L'échafaud sera détruit et les autels de Jésus se relèveront glorieux. » Elle savait que ça arrêtait demain, on le lui avait dit. C'était l'armistice, pour ainsi dire, le lendemain. Alors, les corps ont été jetés dans une fosse commune du cimetière de la Porte Notre-Dame, appelé aujourd'hui cimetière Saint-Géry, à Cambrai. La prophétie de la sœur Fontaine s'est accomplie, hein. Mais violemment attaqué à la Convention, le bonhomme Lebon, là, a dû cesser les exécutions. Il a été arrêté, lui, à son tour, le 2 août 1794, hein. Quelques mois plus tard, il a été guillotiné à son tour, le 15 octobre 1795, à Amiens. Alors, c'est Benoît XV qui a baptisé ses quatre sœurs de la charité le 13 juin 1920. Et vous pouvez vous imaginer qu'au diocèse de Cambrai et au diocèse d'Arras, dans le nord de la France, on célèbre leur fête avec grand joie. Et maintenant, un saint espagnol qui a été tué par les musulmans, je m'excuse auprès des musulmans, il y a eu des saints des deux côtés, je crois bien, car il y a de grands saints musulmans aussi. Un jour, on en parlera d'ailleurs. Il y a des mystiques musulmans qui me plaisent beaucoup. Et alors donc, ce martyr était tout jeune, c'était un enfant. Il est mort en l'an 925 et il a été martyrisé à Cordoue. Il était né dans le León et son nom était Pelayo, P-E-L-A-Y-O, Pelayo, en français Pélage. Il était le neveu d'un évêque, l'évêque de Tuy, T-U-Y. Donc son oncle était évêque et son oncle a été fait prisonnier par les troupes de l'émir de Cordoue. Cordoue, c'est en Espagne, c'est une très belle ville. C'est, si je ne m'abuse, en Andalousie, c'est-à-dire dans cette section qui a été très marquée par la présence des musulmans pendant des siècles et des siècles, qui avaient envahi, les Arabes avaient envahi une grande partie de l'Espagne. Ça a duré des siècles, cette histoire. Donc, l'évêque, l'oncle de notre saint martyr d'aujourd'hui, a été délivré à une seule condition. C'était de laisser son neveu Pélage à la cour. Vous vous imaginez qu'il y avait anguille sous roche. Hein? Vous demandez pourquoi on désirait garder ce jeune garçon. Mais ce jeune adolescent ou préadolescent s'était fait remarquer à la cour des musulmans par sa sagesse, sa pudeur chrétienne profonde, neveu d'un évêque, par son grand goût pour la prière, mais aussi, et c'est là le drame, par sa beauté. Et là, les pages de l'émir Abdarrahman III l'ont signalé à leur seigneur. Alors il a fait venir Pélage. Il le fait revêtir de somptueux habits pour le flatter, pour l'avoir de son bord, comme on dit en langage un peu vulgaire. Et alors, au cours d'un bon repas, cet émir lui a fait des avances que vous pouvez imaginer. Et ce jeune chrétien a refusé tout à fait avec mépris. C'était en 925. L'émir était enragé. Abdarrahman III, il s'est fâché. Et il a demandé qu'on égorge ce jeune Pélage, parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Quelques 35 ans plus tard, en 960, un prêtre de Cordoue, car vous savez que les musulmans n'étaient pas toujours sévères comme ça, hein. Il y avait parmi eux des chrétiens qui étaient assez bien traités, très souvent, de même que les chrétiens traitaient assez bien les musulmans. Il y avait des juifs aussi. Vous savez, il ne faut pas croire que tous ces gens étaient à couteau tiré à longueur de journée. Les musulmans qui occupaient l'Espagne ont su fort bien se très bien conduire pendant très longtemps. Et ça venait des persécutions par secousses, on peut dire. Hein. C'était pas facile. C'est pas facile, l'occupation de son territoire par un autre peuple. Surtout un autre peuple qui a une religion différente. Et c'est pénible, c'est difficile. Hein. Et alors donc, ce prêtre de Cordoue a écrit l'histoire du martyr de Pélage. Ça a eu beaucoup de lecteurs, parmi les moines, parmi les laïcs. Et puis 7 ans après, la reine Elvira de Léon, où était né ce jeune garçon, eh bien a réussi à faire venir les reliques. Les musulmans ont accepté ça. Et bien que le culte des reliques n'est pas très très développé chez eux, mais ça existe. Alors le culte de Pélage s'est répandu dans toute l'Espagne. Et puis on peut dire que vers l'an 1000, pas long, c'est donc 75 ans après, de nombreuses églises ont été dédiées à ce jeune martyr. Et le renom de Pélage s'est même répandu en Europe. On le retrouve jusqu'en Allemagne. J'ai donc cité le cas de ce jeune homme parce qu'on n'engage plus les jeunes aujourd'hui à se garder purs dans leur corps. On croit que c'est de l'aberration. Quoi qu'on se pense, si des adultes abusent d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, on est encore très très sévère. On est même plus sévère peut-être que les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est terrible. On est extrêmement sévère pour ces crimes. Par contre, si des jeunes ensemble font de telles choses, on trouve ça presque comique. On est un peu dans l'aberration. Hein. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe dans notre société. Enfin, je voulais vous parler de Saint Anthelme. C'est un nom un peu surprenant. C'est pas Anselme, mais bien Anthelme, A-N-T-H-E-L-M-E. Donc on remplace le S par un TH. L'évêque de Belley, dont je vous ai parlé un peu au début, c'était un Savoyard, donc un homme des montagnes. Là où est la grande Chartreuse, il est devenu chartreux d'ailleurs. Il a été général des Chartreux. Il a été nommé le 7e prieur de la grande Chartreuse. Où je vous rappelle, j'ai fait un séjour extrêmement intéressant à la grande Chartreuse. J'ai séjourné dans une maison de Chartreux et vécu comme un Chartreux. Trop brièvement à mon goût, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place. Et je suis parti avant de leur faire perdre leur temps. Mais j'aurais bien accepté de rester quelques années. Et là, en 1163, le pape Alexandre III l'a désigné comme évêque de Belley. Ça ne plaît pas beaucoup à un chartreux. Vous savez, les chartreux sont des ermites, des moines qui se veulent tout entiers donner à Dieu dans la prière, dans la pénitence et dans l'amour. Il faudrait que je vous explique un peu comment on vit en grande chartreuse un jour. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais j'y reviendrai. Vous savez, c'est une vie merveilleuse, bouleversante. J'ai rencontré là des chartreux dont le regard était d'une telle pureté, d'une telle joie. Pourtant, c'est une vie extrêmement difficile. Mais il faut avoir un goût de Dieu très, très prononcé et un amour du monde entier. Prier pour le monde entier. Savoir que quand on est membre de l'Église et qu'on prie à l'intérieur de cette Église, la grâce de Dieu se répand partout. Alors, en but à l'antipathie de l'empereur Frédéric, qui n'aimait pas cette nomination comme évêque de Belley, il a réussi à amener l'empereur de son côté. Et puis, d'autant plus, l'empereur n'était pas content parce que le pape avait nommé cet évêque prince d'Empire. C'était des titres que l'on n'imagine plus aujourd'hui. De toute façon, quand il était moribond, un des hommes qui lui faisait le plus de tort s'est converti. Et on dit que le meurtrier qu'il avait essayé de convertir, qui était nanti de puissante protection, a réussi à se faire absoudre par l'évêque Anthelme. Et puis Anthelme finalement a essayé de se retirer à la grande chartreuse à un moment donné parce qu'il y avait trop de problèmes avec ce clergé puis ce monde et l'empereur. Mais tout le clergé puis le peuple de Belley est allé à la grande chartreuse pour réclamer son retour. Et puis le souverain pontife, le pape, a enjoint au prieur de la grande chartreuse, notre Anthelme, de retourner dans sa cathédrale et de prendre sa charge d'évêque qui ne lui plaisait pas tellement. C'est pas facile pour les moines quand ils sont nommés comme ça. D'ailleurs, les orthodoxes en savent quelque chose parce qu'une grande partie, vous savez, de nos frères orthodoxes ont comme évêque et comme métropolite ou exarque des moines qui sont pris dans les monastères. C'est pas toujours facile pour ces moines d'agir ainsi.